Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'Opéra de Rennes réalisé par Arnaud Vasmer, aujourd'hui avec une très ancienne histoire de désir, d'amour, de désir de pouvoir entre séduction et vengeance par l'un des inventeurs de l'opéra et du baroque, le couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi. Cet opéra sera donné à Rennes du 1er au 8 octobre par Le Banquet Céleste. Et nous allons parler en votre compagnie, Damien Guillon. Bonjour.
Bonjour.
Le Banquet Céleste est votre ensemble qui est en résidence à l'Opéra de Rennes, ensemble dédié au baroque qui va fêter ses 15 ans. Et en parallèle avec le couronnement de Poppée, il y aura le couronnement du Banquet Céleste par une exposition à voir au Carré Lully à l'Opéra de Rennes. Mais je ne sais pas trop comment vous présenter par rapport au Banquet Céleste, puisque vous avez décidé après 15 ans d'en changer la gouvernance, ou vous allez en changer la gouvernance. Comment faut-il dire ?
Oui, c'est ça. Alors effectivement, le Banquet Céleste, c'est un ensemble que j'ai fondé il y a 15 ans, alors que j'étais dans une période où je chantais beaucoup. Et puis j'avais cette envie à la fois de m'entourer de musiciens avec qui j'avais déjà partagé beaucoup la scène dans divers orchestres. Et puis on a monté cette aventure il y a 15 ans avec des musiciens qui sont toujours avec moi aujourd'hui. Et effectivement, c'est eux qui vont prendre un peu le relais de la direction artistique à partir de l'année prochaine. Moi, je vais d'abord faire un petit temps de pause et puis certainement ouvrir mes activités professionnelles soit vers d'autres domaines. Enfin voilà, c'était encore pas mal en réflexion, mais il y avait ce besoin de mon côté, oui.
En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous serez le directeur musical de cette version du couronnement de Poppée avec Ted Hoffman à la mise en scène. S'attaquer à Monteverdi, même si vous connaissez bien le baroque, mais pas forcément Monteverdi, pas forcément le compositeur le plus récurrent dans votre répertoire, c'est le faire avec quel état d'esprit ? C'est quand même un inventeur de génie, surnommé l'oracle de la musique. C'est un monstre sacré auquel on s'attaque différemment peut-être des autres génies de la musique ?
Oui, alors c'est Monteverdi, c'est effectivement l'un des premiers compositeurs à avoir écrit pour le genre de l'opéra. Et en fait, il en est l'un des inventeurs. C'est pas tout à fait le premier, mais il a plus que contribué à son développement et aussi à une nouvelle manière d'écrire la musique au XVIIe siècle. Et c'est effectivement un travail très particulier que de travailler sa musique, qui a parfois à la fois un côté un peu expérimental. Le but étant toujours en fait pour Monteverdi et ses contemporains, de se rapprocher le plus possible de la déclamation du texte parlé, alors pas simplement le texte parlé, mais le texte déclamé. Et donc la musique est toujours écrite en fonction des accents du texte. Alors dit comme ça peut paraître assez simple, mais en fait ça donne une écriture musicale qui réclame un gros travail pour les chanteurs, celui de ne pas être simplement dans la préoccupation de sa voix, mais de mettre sa voix au service d'une déclamation théâtrale. Et c'est aussi un gros travail pour les instruments, puisque en fait, les partitions qui nous sont parvenues sont écrites la plupart du temps avec deux lignes, une ligne de chant et une ligne de basse.
Parce que la plupart du temps, c'est du chant pour basse continue.
Voilà.
Il y a peu d'instruments, finalement, qui accompagnent la voix.
En fait, il y a très peu d'instruments. Les instruments sont utilisés pour soit des petites symphonies qui viennent introduire ou bien ponctuer le discours. Les instruments de dessus, donc violon, etc., sont parfois utilisés, jouent parfois en même temps que les chanteurs, mais c'est assez rare, surtout dans cette œuvre. Et donc il y a un grand travail à faire de l'accompagnement de ce qu'on appelle la basse continue, c'est-à-dire tous les instruments de basse. Alors on trouvait les viols de gambe, un peu les violoncelles aussi en Italie à l'époque, et puis les instruments de soutien harmonique comme le clavecin, le luth. Et donc pour tous ces instruments jouent ensemble et doivent à la fois impulser un rythme et en même temps suivre le rythme de la déclamation des chanteurs. Donc c'est toujours un gros travail pour les instruments de basse, oui.
On va y revenir tout à l'heure, Damien Guillon. La voix au texte, hein, parce que Monteverdi est aussi un des génies dans cet alliage du texte et de la voix. Et d'ailleurs, dans ces madrigaux, hein, qui est ce genre musical qui a précédé la cantate, il s'est toujours intéressé à voir ce qu'il y avait de plus beau dans la poésie de son époque ou de celle qu'il choisit de mettre en musique. Mais je voudrais d'abord que on parle de l'histoire du couronnement de Poppée, parce que c'est d'abord une histoire que les gens vont venir découvrir, celle de Néron voulant répudier Octavie pour épouser Poppée, cherchant un prétexte pour justifier son dessein. Mais c'est aussi l'histoire de Poppée qui abandonne son fiancé Othon pour épouser Néron et devenir impératrice, alors ce qu'elle fait sans vraiment ni remords ni justification auprès de son ancien fiancé. Mais c'est aussi l'histoire d'Octavie qui va tenter d'éliminer Poppée puisqu'elle veut lui piquer sa place et elle va se servir d'Othon, donc, qui était le fiancé de Poppée, pour se venger d'elle et tenter de tuer Poppée. Et puis il y a Sénèque qui est aussi présent dans cet opéra, qui porte la sagesse, qui porte un regard peut-être à distance par rapport à ce qu'il voit. Mais pour vous, Damien Guillon, ça raconte quoi le couronnement de Poppée ?
Ça raconte effectivement l'intrigue est beaucoup centrée autour du couple qui est un couple d'amants de Néron et Poppée, et beaucoup quand même sur la soif à la fois d'amour mais aussi de pouvoir, beaucoup de Poppée qui est prête à peu près à tout pour se faire couronner impératrice et obtenir le mariage avec Néron, et c'était effectivement, pour moi, c'est une histoire de passion humaine qui est transposable à peu près à toutes les époques et qui est une histoire assez noire au fond, puisque pour obtenir ce qu'elle souhaite, un certain nombre de personnes vont être éliminées. Elle demande la tête de certains, elle le fait effectivement sans vergogne, sans vraiment remords. Et donc c'est vraiment... disons, c'est à la fois une histoire d'amour, mais c'est surtout ce qui se joue, c'est beaucoup le pouvoir, les trahisons.
Et le désir immédiat. Ils sont prêts du désir immédiat.
Exactement. Et ceux qui peuvent se mettre au milieu de leur chemin, on les illumine sans vergogne. Et donc, ça donne aussi une musique et un livre. Enfin, le livret et la musique donnent un rythme qui est assez incroyable dans cette œuvre. Et justement, qui est extrêmement théâtral. Les passions sont décrites de manière parfois très extrême, à la fois dans la musique et dans le rythme de l'œuvre.
Ça renvoie à ce que vous dites tout à l'heure sur l'importance de la basse continue, qui fait que ça permet aussi d'accélérer la narration et du coup qu'on aille qu'il se passe vraiment des choses et que les choses s'enchaînent à un rythme soutenu.
Voilà, c'est ça, c'est tout le travail qui est fait aussi et qui est passionnant du metteur en scène Ted Hoffman, qui est un metteur en scène qui travaille beaucoup sur la direction d'acteurs et justement sur ce qui se passe entre les personnages, quel est le fond de ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui se joue, à quel moment, etc. Et donc tout ça permet de vraiment cet alliage, cette alliance, disons, entre la musique, le rythme du texte, le rythme de l'action, le rythme des passions, en quelque sorte, qui donne ce rythme à toute l'œuvre. Oui.
Et alors, on voulait commencer à le dire, mais si je vous repose la question plus frontale, en quoi cet opéra de Monteverdi sur un livret de Giovanni Francesco Bussanello nous parle encore aujourd'hui, c'est-à-dire 380 ans quand même, oui, après sa création en 1643. Ça n'a pas toujours été une évidence. Hein. Longtemps, on n'a joué que les contemporains. Il a fallu attendre le courant du 19e siècle pour ressusciter du répertoire. Et même fin 19e, quelqu'un comme Verdi a trouvé que Monteverdi ne composait pas très bien. Il était plein de fautes dans le contrepoint. Alors c'est vrai que c'était aussi un siècle... du romantisme qui comprenait mal le baroque, donc en quoi ça nous parlerait au XXIe siècle,
hein ? Bah, en termes de ce que je disais, en termes de passion humaine, c'est-à-dire qu'il est question d'amour, de pouvoir, de trahison, etc. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve, c'est absolument universel et intemporel, donc on le retrouve malheureusement aussi au XXIe siècle. On pourrait imaginer que ça ait un peu disparu, mais en fait, pas du tout. Donc ça nous parle à nous en tant qu'être humain, je pense, de manière très directe. Et puis ce que vous disiez sur la musique, c'est vrai que je parlais aussi de période un peu expérimentale, mais le 17e, donc on est vraiment à la naissance de l'opéra. Enfin, l'opéra est né quelques dizaines d'années avant le couronnement de Poppée, puisque c'est le dernier opéra de Monteverdi.
C'est 1643, voilà. Et c'est aussi l'année de la mort de Monteverdi.
Voilà, c'est à la toute fin de sa vie.
Ouais, il a eu le temps de tout expérimenter, de tout inventer.
Absolument.
De tout expérimenter, donc il y a tout Monteverdi...
Et quand vous disiez que les compositeurs du 19e trouvaient que les choses n'étaient pas forcément très bien écrites, il y a cet aspect expérimental, c'est-à-dire l'une des caractéristiques de la science de Monteverdi, c'est aussi des audaces avec l'harmonie, c'est des audaces avec le rythme. Enfin voilà, et donc c'est un langage qui se construit et qui a beaucoup évolué. Et on arrive là à la fin de la vie de Monteverdi avec une œuvre. Alors, il est probable que toute la musique qui nous est parvenue ne soit pas de la main de Monteverdi, c'est voilà, une autre question. Mais
on y verra tout à l'heure.
Mais en tout cas, c'est certain aussi que quand même une grande part est de la main de Monteverdi, et on voit une évolution d'écriture entre ses premiers opéras et celui-ci, qui arrive à la toute fin de sa vie, où justement le drame, disons la manière d'exprimer le drame et les différentes passions est un langage qui s'est affirmé tout au long de sa vie. Oui.
Alors double évolution pour Monteverdi entre l'Orfeo, son premier opéra, et le Couronnement de Poppée, le dernier, c'est qu'entre-temps, il a eu le temps, je l'ai dit, d'inventer de beaucoup de choses et d'expérimenter beaucoup de choses. Mais c'est aussi un monde qui a changé. Il est contemporain de Galilée. Galilée meurt une année avant Monteverdi. Et c'est-à-dire qu'il y a le scepticisme qui est monté. En tous les cas, sur ce qui guide le dessin des êtres humains, ça a été considérablement bouleversé entre l'Orfeo et le Couronnement de Poppée. Est-ce que ça rend compte aussi de ce changement de monde, le Couronnement de Poppée ?
Oui, j'imagine. Je pense que de toute façon, les compositeurs écrivent toujours... ils vivent dans leur époque. Et effectivement, ce livret qui est assez noir au fond, qui nous parle beaucoup de choses très sombres, de mort, de trahison, de passion, est certainement aussi lié à la vie de la cité aussi, notamment à Venise à l'époque. Ouais.
Parce qu'il vient de s'installer à Venise, oui. Hein, qui sera sa dernière ville. Enfin, il y a aussi autre chose qui est importante dans la vie de Monteverdi, c'est qu'une année avant, 1742, il est ordonné prêtre, donc c'est un opéra de prêtre, mais c'est un opéra très... immoral, Damien Guillon. Il y a quelque chose aussi de très surprenant.
Complètement, mais on est souvent surpris. Par exemple, on parlait des passions, etc. Mais il y a aussi un autre volet dans cette œuvre qui est très important. Ce sont des personnages qui sont quelque part plus secondaires, mais qui ont une forme de rôle en quelque sorte de divertissement. On est très proche de la Commedia dell'arte. Donc c'est vraiment une œuvre qui a ces deux visages, le visage très sombre, très noir du drame. Et aussi le visage plus comique, plus divertissant. Et par exemple, il y a souvent les personnages de nourrice qui apparaissent dans ces opéras de Monteverdi et de certains de ses contemporains. Et ces personnages de nourrice étaient souvent à l'époque chantés par des prêtres. Alors ça peut nous paraître complètement surprenant aujourd'hui. Mais en fait, il y avait des liens très, très proches entre l'Église, notamment pour la musique, entre l'Église et l'opéra, par exemple. Justement à Venise, Monteverdi était en poste à la basilique à San Marco, et on sait que certains chanteurs qui étaient engagés à San Marco chantaient aussi dans les opéras de Monteverdi. Donc les liens entre la musique d'église et la musique d'opéra étaient beaucoup plus ténus que ce que l'on imagine nous aujourd'hui au 21e. Ouais.
Surtout avec le jugement très critique sur les arts de la part de l'Église en tant qu'institution. Et puis il y a une autre chose aussi qui est surprenante dans cet opéra, le Couronnement de Poppée de Monteverdi, Damien Guillon, c'est que ces personnages, mais vous l'avez dit par le personnage de la nourrice, on le voit aussi, il y avait entre Sénèque et des militaires, des soldats qui vont un petit peu détourner ce qu'est Sénèque. C'est que tous les personnages sont à un moment ou à un autre, les personnages centraux sont à un moment ou à un autre au centre, au sommet de l'opéra, ils regardent les autres, mais ils sont aussi ensuite regardés par les autres, ce qui fait que le spectateur est troublé, c'est-à-dire qu'il s'est fait un avis, un point de vue. Et ce point de vue va être remis en cause par ce jeu de regard. Il y a quelque chose de très jouissif aussi dans la relation entre vous les artistes, ce qu'ont fait le compositeur et le librettiste, et la manière dont le spectateur est aussi perturbé dans ses certitudes, ses croyances.
Oui, certainement, c'est vraiment ce qui fait aussi la richesse de cette œuvre, c'est-à-dire qu'il y a aussi du théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une seule intrigue, les intrigues sont nombreuses, puisqu'on a différents couples, on a des trahisons qui sont différentes, la répudiation d'Octavie, la mort de Sénèque qui est demandée, donc il y a une variété aussi d'actions et différents degrés de lecture entre des personnages qui est certainement passionnant pour le spectateur et que nous on essaye aussi de traduire le plus possible musicalement. Oui.
Mais ça c'était un des génies du librettiste d'avoir proposé à Monteverdi finalement toutes les passions et tous les sentiments.
Oui tout à fait.
Vous l'avez suggéré aussi, Damien Guillon, c'est un opéra qui a traversé le temps, mais il y a un doute sur qui a composé quoi, puisque certaines scènes, on les a retrouvées, en tout cas certaines partitions, dans d'autres opéras d'élèves de Monteverdi, et notamment le duo d'amour final entre Néron et Poppée, qui est l'un des plus spectaculaires et l'un des plus beaux de toute l'histoire de l'opéra. Comment vous prenez en compte aussi ça, le fait qu'il y ait une incertitude, on ne sait pas ce qui a été joué, qui a été créé au Carnaval de Venise en 1643. Et puis, il y a deux versions. Suivant là, on a retrouvé les partitions, une de Naples, une de Venise, qui nous sont venues. Alors, vous, comment vous composez? Quelle version vous allez nous proposer?
Alors oui, c'est effectivement une œuvre complexe de ce point de vue, parce qu'on a, si je schématise un peu, on a deux manuscrits. Il y a un manuscrit qui vient de Venise et un manuscrit qui vient de Naples, où l'opéra a été repris un peu plus tard. Donc, on sait que la création a été faite dans un théâtre à Venise en 1643, ça s'est avéré, mais on a assez peu de... Enfin, je dis les musicologues, hein, pas moi, mais on a assez peu d'informations en fait sur les circonstances exactes de la création, notamment les chanteurs, etc. Il y a, je crois, une seule chanteuse qu'on a pu identifier, Anna Renzi, qui était l'une des grandes chanteuses de l'époque et qui a certainement chanté Ottavia. On sait qu'il y avait des castrats qui étaient employés pour certains rôles, le rôle de Néron, le rôle d'Ottone, etc. Donc il y a quelques certitudes comme ça. Mais on a ces deux manuscrits qui sont différents, qui a priori ont été dont la copie a été faite après la mort de Monteverdi, et dans lequel il y a quand même pas mal de différences, à la fois parfois sur le texte musical, mais aussi sur le texte du livret.
Il y a des ajouts, des suppressions.
Voilà. Ouais. Oui, et on sait aussi que les opéras étaient souvent rejoués assez fréquemment lorsqu'ils étaient créés et repris, et que ils étaient repris parfois dans d'autres villes, comme ça a été le cas pour le Couronnement de Poppée. Et que je pense que en quelque sorte les musiciens faisaient aussi avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'ils ne trouvaient pas exactement les mêmes moyens à Venise ou à Naples, c'était pas, probablement pas les mêmes chanteurs, probablement ils n'avaient pas à disposition les mêmes budgets et donc les mêmes effectifs instrumentaux, etc. Donc il y avait certainement beaucoup d'adaptations. Et effectivement, les musicologues travaillent depuis très longtemps sur ce Couronnement de Poppée, enfin depuis des dizaines d'années. Certains ont des théories assez différentes, mais c'est vrai aussi que simplement avec un regard de musicien aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu de différents styles d'écriture dans l'œuvre. Le dernier duo n'est probablement pas effectivement de la main de Monteverdi, c'est une écriture assez différente de ce que l'on connaît de lui à la même époque. Et donc il y a différentes théories pour les attributions comme ça. Alors nous aujourd'hui, on est face à ces questions comme musiciens.
Fait quoi avec ce que Vincent Dindy a remis au 19e siècle à l'honneur, et puis la deuxième version qui est arrivée tardivement,
oui, 1930, c'est ça.
Dans les années 1930.
Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de musicologues qui se sont penchés les dernières dizaines d'années sur les sources, et comme je vous le disais, qui ont réussi à savoir que des castrats étaient employés, que l'effectif instrumental était a priori très réduit, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de moyens dans le théâtre en question à l'époque à Venise. Donc ça, c'est des choses que l'on connaît. Nous, aujourd'hui, on doit légèrement adapter aussi à nos circonstances du 21e siècle.
Il n'y a pas de castrats, par exemple.
Voilà, donc les castrats, on n'en a pas, mais on a la chance, par exemple, d'avoir trouvé un sopraniste, un contre-ténor soprano, qui s'appelle Ray Chenez, qui va tenir le rôle de Néron ici dans la production. Donc on essaye à la fois de se rapprocher de ce qu'a pu être la création, même si ça, il y aura toujours une grande part de mystère. On aurait aimé pouvoir mettre des micros à l'époque et savoir comment il jouait, comment il chantait, etc. Ce que l'on peut faire nous aujourd'hui, c'est essayer de réunir les ingrédients les plus proches de ce qui se faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'on connaît quand même tous les instruments qui étaient utilisés pour la basse continue, par exemple. On sait qu'a priori à Venise, c'était surtout des cordes, donc des violons, etc., pour les dessus. Moi, j'ai fait le choix d'ajouter aussi des cornets à bouquin, qui était un instrument très utilisé à l'époque et qui nous permet de colorer un peu.
Instrument avant.
Voilà, des instruments avant en plus. Donc on a ces choix-là. Pour ce qui est du texte musical, on est nous aujourd'hui à Rennes dans une reprise de production, puisque l'opéra a été créé à Aix-en-Provence l'année passée. C'est une coproduction Rennes, Aix-en-Provence et puis d'autres théâtres. Et il a été créé avec un autre orchestre, ce qui se fait beaucoup dans le domaine de l'opéra. Et donc les choix, si vous voulez, en gros, qu'est-ce qu'on prend dans le manuscrit de Venise, qu'est-ce qu'on prend dans le manuscrit de Naples, comment on les arrange, etc. ces choix-là ont été faits l'année passée, et toute la mise en scène a été faite à partir de ces choix. Donc moi aujourd'hui, je n'arrive pas en disant je change tout et on voilà, puisque tout le travail de mise en scène a été fait, donc je m'y adapte. Et puis les choix qui ont été faits l'année passée sont tout à fait cohérents et à la fois musicalement et à la fois dramaturgiquement. Donc voilà. Donc on va proposer, pour répondre à votre question longuement, effectivement, il y a un choix qui a été fait de prendre certaines parties dans le manuscrit de Venise, de prendre d'autres dans Naples, et puis avec ces différents éléments, de reconstruire une dramaturgie qui soit aussi le plus proche de ce que le metteur en scène aujourd'hui, Ted Hoffman, a en tête par rapport à l'œuvre. Voilà.
Ainsi s'achève la première partie de cet entretien avec Damien Guillon. Nous avons encore beaucoup à dire et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons un deuxième épisode consacré à la musique de cet opéra de Monteverdi et à l'interprétation qu'en donnera Damien Guillon. Cela à l'occasion des représentations du Couronnement de Poppée, l'opéra de Claudio Monteverdi qui sera donné à Rennes du 1er au 8 octobre sous la direction musicale de Damien Guillon. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Opéra de Rennes. À bientôt.